Nous étions restés hier au chapitre 7. Nous allons le reprendre. Nous en avons vu une partie. Chapitre 7. On lit jusqu'au verset 8. Nous allons reprendre la lecture au verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » Et entre parenthèses, voyez que sur le trône du chapitre 4, n'est-ce pas, c'était bien Dieu, voilà encore une confirmation à Dieu qui est assis sur le trône que Jean a vu dans le chapitre 4. Au verset 11, « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, c'est-à-dire les chérubins, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. » Vous voyez que la vision du chapitre 4 qui nous a présenté le trône de Dieu et Dieu assis sur le trône. Nous avons bien marqué cela puisque c'est dans le texte, n'est-ce pas ? Les anciens, quand ils se prosternent et qu'ils louent le Seigneur, ils louent celui qui est assis sur le trône et ils lui disent « Dieu, tu es Dieu Tout-Puissant ». Bon, et nous voyons que par la suite, tout se déroule devant ce trône. Les grandes parties de l'Apocalypse se déroulent là. En somme, c'est un déroulement devant le trône de Dieu sur cette mer transparente de cristal. Hein. C'est là que nous verrons d'autres scènes se dérouler là. Tout se déroule là. C'est le cas de celle que nous présente cette seconde partie du chapitre 7. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Voyez, Dieu ne fait pas de différence, cela est exprimé dans la Bible, il n'y a pas d'acception de personne. Pour Dieu, n'importe lequel de la famille humaine, qu'ils appartiennent à une nation ou à une autre, la couleur de sa peau soit d'une sorte ou d'une autre, cela n'a aucune importance, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, il y en a de partout. Dieu regarde au cœur, tous les hommes ont un cœur, tous les hommes ont reçu l'Esprit et sont capables de connaître leur Dieu, leur Créateur, et capables de répondre à son appel. Donc c'est une foule innombrable. Jean a ici la vision anticipée de la masse des rachetés. Ici, c'est toute la masse des rachetés, cette foule innombrable de partout. La masse des rachetés, des élus, la grande moisson de la terre, c'est la grande moisson de la terre, dans son immense totalité. Elle n'est pas encore réalisée lorsque Jean la contemple, c'est ce qu'indique le futur des versets 16 et 17. Voyez, c'est au futur, faut remarquer ça. Ils n'auront plus faim. Ils sont pas encore là, ces gens-là, n'est-ce pas? Dieu en a, Jean en a la vision, mais ils sont pas là, n'est-ce pas? Sans ça, il serait dit, ben maintenant, ils n'ont plus faim. Hein? Mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, c'est au futur, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra dans le futur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Alors, il y a les commentateurs, vous savez, je suis un petit peu, vous l'avez vu, un petit peu irrité contre la diversité des commentaires, l'innombrable diversité, parce que c'est fantastique, c'est fantastique. Enfin, quand on essaie de réaliser un petit peu quelle est la littérature sur l'Apocalypse, c'est fabuleux, c'est effrayant. C'est un livre qui a beaucoup attiré, mais alors tout ce qu'on a pu dire, n'est-ce pas, là-dessus, c'est effrayant. Alors il y a des gens voient là, n'est-ce pas, simplement une foule issue de la grande tribulation, ce qu'ils appellent la grande tribulation, c'est-à-dire uniquement la période qui est placée, qui prend place dans le règne de l'Antichrist. Hein. Mais c'est pas ça, il n'y aurait pas une foule semblable, n'est-ce pas? Et là, il s'agit de toute la moisson de la terre. C'est toute la moisson qui est là représentée, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il est précisé que ces gens viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Voyez, dans beaucoup de religions, il y a en somme une ségrégation qui est opérée. Dans beaucoup de religions, une ségrégation. Hein. Mais là, il n'y en a pas vraiment dans la vérité. Dieu ne fait pas de ségrégation, il ne fait pas de différence, d'acception de personne. Hein, il appelle tous les hommes, absolument tous les hommes, au salut éternel. Sur la terre, que constatons-nous? Eh bien, qu'il y a un faible nombre de croyants. Et c'est un sujet d'affliction. Dans l'évangile de Luc, il est parlé du petit troupeau. Alors, évidemment, moi, quelquefois, il m'est arrivé de dire, Seigneur, petit troupeau, bien sûr, c'est bien, mais pourquoi pas un grand troupeau? N'est-ce pas? Nous voudrions plus. Mais le Seigneur aussi veut plus. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il voulait que sa volonté, Jésus a dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qui ont des occasions de revenir sur leur attitude, de penser autrement, de s'humilier un peu, de dire nous nous sommes trompés. Non, eh bien ils ne le font pas, ils s'endurcissent. Le cœur de l'homme est dur comme plus dur que la pierre. Faut le savoir, ça. Et votre cœur, le mien, était ainsi. Attention, il faut que la pierre, elle soit vraiment brisée. Hein. Mais le cœur de l'homme est dur, 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 effroyablement dur. Hein. Même devant les cataclysmes, les fléaux qui vont s'abattre, qui vont faire souffrir les hommes, nous le verrons, n'est-ce pas? Les hommes, au lieu de s'humilier, non, ils vont blasphémer contre Dieu. Ils vont blasphémer. C'est terrible, ça. C'est pour ça que il y aura un petit don. Mais malgré tout, depuis que la terre existe, depuis que l'humanité est née sur la terre, eh bien, voyez, la récolte est tout de même abondante. Elle est abondante. Rassurons-nous, voyez, il y a une grande foule. une grande foule. Quand des personnes vous disent, mais alors, vous me dites que pour, il faut croire en Jésus-Christ, il faut croire à l'Évangile, mais qui va être sauvé autour de nous? On voit pas beaucoup ça, n'est-ce pas? Des évangéliques, on les cherche avec une loupe dans la société humaine, n'est-ce pas? Et alors, ben vous, il faut leur répondre avec ça, leur dire, écoutez, voyez, voilà ce qu'il y aura. Voilà la moisson de la terre. Et rien n'empêche que vous apparteniez, vous aussi, à ce peuple sauvé. La moisson sera belle et grande. Il y a ici le terme « grande tribulation ». Jean reçoit cette réponse à cette question « Qui sont-ils ? Qui sont-ils ceux-là et d'où sont-ils venus ?» Alors, Jean, lui, il ne veut rien dire, il ne sait pas, c'est pas de lui que ça vient, n'est-ce pas? Alors, il profite de la question pour dire, mon Seigneur, tu le sais, alors dis-le-moi. Et le Seigneur, ce Seigneur dit ceci, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Alors, la grande tribulation, on a accaparé cette expression qui figure là seulement, on l'a accaparé pour désigner la 70e année des prophéties de Daniel, la prophétie du chapitre 9 de Daniel, c'est pas 70e année, et c'est-à-dire l'année du règne de l'Antichrist. Et alors, ça, la grande tribulation, c'est ça. Alors, c'est le langage qu'on emploie, on est un petit peu obligé de le suivre. Mais sachons que ici, grande tribulation ne désigne pas cette période courte et finale. La grande tribulation, c'est depuis la chute. Elle a commencé à la chute quand Adam et Ève virent soudain un corps allongé par terre, inerte, froid, c'était le corps de leur fils Abel. Là, n'avait jamais vu de mort. Pensez pas, le Seigneur avait bien dit, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Mais, voyez, voilà comment on croit les choses de Dieu. Ils croyaient pas. Et puis voilà que, ils constatent, ils voient. Ben, la grande tribulation, elle a commencé là, par le meurtre perpétré par Caïn sur son frère Abel. Ah, la jalousie est venue s'être emparée de lui, a pu supporter que son frère ait eu la faveur de Dieu et que lui, au contraire, ait été écarté. Il n'a pas considéré que s'il avait été écarté, c'est parce qu'il avait eu une mauvaise pensée dans son cœur. C'est parce qu'il avait eu une pensée de chair, une pensée personnelle, parce qu'il voulait imposer quelque chose à Dieu. Imposer quelque chose à Dieu, mes amis. C'est malheureusement ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire encore dans l'Église évangélique si nous continuons. Nous allons imposer à Dieu, nous allons dire, Seigneur, il faut que ça te plaise comme ça. Nous aimons le spectacle, c'est pas? Nous aimons... les choses qui réjouissent là, hein, et qui provoquent cette exaltation psychique, ça fait rien que ce soit psychique. Nous aimons ça, nous aimons nous réjouir comme ça, n'est-ce pas? Nous aimons le spectacle, le théâtre, hein, c'est bien comédie musicale, tout ça. Il nous faut des artistes. Il nous faut pas des saints maintenant, il nous faut des artistes. Hein. Bon, alors Seigneur, faut que ça te plaise, ça. Eh bien moi je vous dis, le Seigneur dira non! Il se détournera comme il s'est détourné du regard porté sur Caïn. Il a détourné son regard de Caïn et il a porté sur l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel, c'était une offrande selon la foi, une offrande significative, une offrande selon le plan de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Il faut que nous soyons dans le plan de Dieu. Chers amis, si nous allons à côté du plan de Dieu, qu'allons-nous faire? Reconstituer l'Église apostate avec d'autres moyens peut-être. Mais nous allons reconstituer une église apostate. Apostate. C'est grave, ça, voyez-vous. Nous ne sommes pas, nous ne voulons pas nous établir dans la critique. Mais nous voulons voir clair. Seigneur, le Seigneur est là qui nous montre ces choses, qui nous dit ce qui me plaît, c'est ce que je te demande. Comme disait David, que pouvons-nous t'apporter, Seigneur? Que tu ne nous aies donné toi-même. Voilà ce que nous pouvons t'apporter. Est-ce que le Seigneur nous a donné le théâtre? Est-ce que le Seigneur nous a donné les grimaces? Nous a donné l'art de contrefaire? Parce que pour faire du théâtre, il faut vivre un autre personnage que soi. Hein? Eh oui, c'est ça le théâtre, n'est-ce pas? Et le théâtre fait par un chrétien. Eh bien, ce chrétien, il est un homme nouveau. Ou alors, il n'est pas chrétien. Il a le Seigneur dans son cœur. Il est un homme nouveau, par définition, s'il est chrétien, vraiment, n'est-ce pas? Bon, eh bien, il est un être nouveau, une créature nouvelle, créature nouvelle. Et cette créature nouvelle, elle va songer un personnage fictif du scénario, n'est-ce pas? Du livret de la pièce qu'on joue, hein, un personnage fictif. Alors vous voyez, quelqu'un né de nouveau et qui va prendre la voix, les allures et exprimer les sentiments d'un pécheur. Mais c'est ça le théâtre, c'est ça le théâtre. Et le Seigneur va détourner son regard d'une telle chose. Chers amis, mais c'est flagrant. C'est flagrant. Le théâtre n'est pas pour l'Église. Le théâtre et l'Église sont deux choses qui se repoussent comme le péché et la grâce. Alors, la grande tribulation, elle a commencé là, au meurtre d'Abel. Et elle s'est poursuivie, et vous savez, il y en a eu des choses épouvantables, vilaines. Lisez l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est ce que des personnes nouvelles m'ont quelquefois dit quand, après avoir reçu une Bible, l'ayant ouverte à l'Ancien Testament, ayant parcouru déjà pas mal de passages, mais il y a des choses horribles là-dedans, c'est terrible. Alors, les personnes nouvellement venues jugent selon une conception morale, d'une morale d'ailleurs qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes, bon, mais suivant, n'est-ce pas, une certaine morale. Nous sommes tous les hommes en général, n'est-ce pas, les plus ancrés dans le pécheur, ont un sens moral. Ils sont des moralistes. Alors, c'est pas moral ce qu'il y a là. Il y a des crimes, il y a un tas de choses vilaines. Ils ne se disent pas que dans leur vie, il y a autant de choses vilaines. Mais enfin, ils voient cela. Eh bien, donc, il s'est passé beaucoup de choses qui n'étaient pas belles. Alors, la grande tribulation, c'est cela. C'est cela. Elle s'est étendue à toute l'histoire de l'humanité. Et si on lit même l'histoire de l'Église, il y a par exemple une histoire de l'Église qui a été établie par les darbistes en plusieurs volumes, en 4 volumes, je crois. Et c'est sérieux, les darbistes ont fait des choses, des travaux souvent vraiment sérieux. Eh bien, alors vous voyez, là aussi, n'est-ce pas, des choses terribles se sont passées, non pas seulement du fait des persécuteurs sur l'Église, mais dans l'Église même. Vous voyez des Caïn se jeter sur Abel. Vous voyez un évêque ambitieux démolir un autre évêque qui, lui, voulait rechercher la face de Dieu. Ah, vous voyez de ces choses. L'homme est resté ce loup. L'homme est un loup pour l'homme. Il faut le savoir, cela. n'est-ce pas? Et c'est la grande tribulation, le peuple de Dieu pérégrine au travers des temps, à travers une grande tribulation. C'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Donc la grande tribulation ne désigne ici que tous les temps de l'Église où la persécution n'a pas cessé de sévir. Voyons d'ailleurs ce que nous en dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit par exemple au chapitre 16 de Jean et au verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il est vaincu. Alors si vous vous établissez sur cette victoire assurée, faite et assurée par Jésus, alors vous aussi vous allez vaincre. Et nous, actuellement, nous avons des tribulations. Nous avons dans notre milieu, quand on lit les réveils religieux de Finet et autres ouvrages de lui, on s'aperçoit que effectivement il y a des tribulations dans le milieu même de l'Église. Finet n'hésite pas à dire, mais vous êtes quelquefois plus soumis à des afflictions et une adversité de la part de vos frères que de la part du dehors. Alors il faut que nous comprenions ça aussi, nous, n'est-ce pas? Nous aurons des tribulations, mais il faut les traverser, il faut vaincre. Il faut vaincre. La réponse donc à nos alarmes que nous avons maintenant, n'est-ce pas, concernant ces orientations qui se dessinent et même se prononcent, n'est-ce pas, eh bien, c'est cela, n'est-ce pas, j'ai vaincu le monde. Eh bien, nous allons vaincre, nous aussi, par la victoire de Jésus. Et puis, nous avons dans 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 4, 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 4, ceci. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Donc, voyez que l'Église était au milieu de tribulations. Donc la grande tribulation, elle couvre toute l'histoire de l'humanité. Allez demander actuellement à ceux qui sont en Russie, un certain Popov par exemple, n'est-ce pas, qu'on a presque enterré vivant, et qu'on a laissé dans une fosse pendant je sais combien de temps, où il pouvait à peine respirer, n'est-ce pas, eh bien, et puis d'autres sévissent. Allez lui demander si la grande tribulation, c'est uniquement pour l'Antichrist. Il vous dira, mais la grande tribulation, je crois que je la connais, moi. Hein? Et tous les autres, comme lui, n'est-ce pas? Ceux qui ont leur santé a été ruinée dans des camps de travail forcés, n'est-ce pas? Eh bien, tous ces gens-là, en raison de leur foi qui ont souffert, ils savent ce que c'est que la tribulation. Ils l'ont vécu, la grande tribulation. Et puis enfin, dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, et au verset 22, nous avons ceci. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. » Il s'agit de la fameuse prophétesse appelée Jézabel, n'est-ce pas, qui détourne les chrétiens, les croyants de la voie juste, hein? Et voyez, je vais envoyer, c'est Jésus qui parle, je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère ou infidélité avec elle. Une grande tribulation. Peut-être que le Seigneur va envoyer une grande tribulation aussi, dans nos milieux, maintenant. C'est possible. Grande tribulation. Mais vous voyez que la grande tribulation, ce n'est pas seulement ce qui va se passer sous le règne de l'Antichrist. Moi, vous voyez, ce que je déplore beaucoup dans tout ce qu'on a dit ou écrit autour de l'Apocalypse, c'est ça, n'est-ce pas? Cette prise de position, ces prises de position classiques qui sont privatives de réflexion, de véritable pensée. On ne réfléchit pas, on prend les choses telles qu'elles sont. Alors, pourquoi pas prendre un catéchisme catholique ou n'importe quoi, n'est-ce pas, et puis s'y fier. Non, il faut que nous réfléchissions, bien sûr, et ne nous laissons pas entraîner par des interprétations toutes faites. Et c'est important ce que je vous dis là, parce que le fait que la grande tribulation ait été simplement logée là, dans les 7 ans, les 7 dernières années dans le règne de l'Antichrist, tout ça a des conséquences sur le reste de l'interprétation, conséquences fâcheuses. Alors, vous voyez, c'est ce qui fait aujourd'hui encore une difficulté supplémentaire de l'étude de l'Apocalypse, et qu'on se trouve en devant, au devant de toutes ces explications dont beaucoup sont dans l'ouvrage là que j'ai ici, n'est-ce pas? Bien qu'il y ait certaines bonnes parties, mais il y a là réapparition encore de toutes sortes de prises de position, d'avance, n'est-ce pas? Et moi, je ne veux pas être tenu par les prises de position. Nous sommes devant un texte du Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la grâce de Dieu, et à nous de comprendre. Les robes blanches qu'ont tous ces gens-là ont pour signification, bien sûr, ça n'est pas difficile, la pureté et la perfection de leur état de sainteté. Ce qui veut dire, parce que, chers amis, là, il n'y a pas assez de place dans le livre, vous voyez, pour que tous les noms soient donnés, n'est-ce pas? Mais si le Seigneur avait d'avance donné des noms, peut-être que je trouverais les vôtres, là. Peut-être que je trouverai le mien aussi, n'est-ce pas? Hein? Dans cette foule-là, hein? Bon, alors, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il nous la faut, cette robe blanche. Et il faut les palmes aussi dans la main, n'est-ce pas? On nous les donnera. Bon, mais il nous faut la robe blanche. Et la robe blanche, c'est la pureté, la perfection de l'état de sainteté. Nous allons vers la perfection. Il faut, nous ne pouvons pas entrer dans l'éternité sans être revêtus de l'état de perfection, sans la robe blanche. C'est pas possible, ça. C'est absolument impossible. Celui qui n'a pas la robe des noces, le Seigneur dit à ses serviteurs, allez, prenez cet individu et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il est venu là, dans la salle des noces, sans avoir revêtu la robe de noces. Hein? C'est impensable, impensable. Il nous faut l'état de sainteté. Dieu, n'est-ce pas? Lui, il est hors du temps. Il n'est pas assujetti au temps, il est libre. C'est lui qui a créé le temps, alors il n'est pas assujetti à ce qu'il a créé, n'est-ce pas? Quand nous avons fait quelque chose, quand nous avons, mettons, construit une maison, nous ne sommes pas assujettis à la maison, nous pouvons très bien la vendre, nous pouvons nous en séparer. Hein. Eh bien, Dieu, lui, n'est pas assujetti au temps, il est hors du temps. Il est dans l'éternité. Et la vie éternelle, le séjour éternel qu'il nous prépare, se trouve aussi hors du temps. La vie éternelle, c'est une vie qui s'écoule en dehors du temps, c'est traduit par une expression, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Alors, pour être dans la vie éternelle, c'est une loi, en quelque sorte, mathématique, il faut l'état de perfection. Il faut avoir revêtu ce que Christ est lui-même, n'est-ce pas? La robe de justice, la robe de paix, la robe de perfection, la robe des noces. La fin de ce chapitre 7 que nous avons lu Il y a trois versets, les versets 15, 16 et 17. Ces versets nous offrent, si nous les recevons avec foi et avec reconnaissance, nous offrent consolation et encouragement. Il est dit que Dieu dressera sa tente sur eux. Dieu va dresser sa tente sur eux, sur toute cette foule-là de gens qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, qui sont revêtus de robes blanches, de l'état de sainteté. Ils ont l'état de sainteté. Alors, Dieu va étendre sa tente sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Mais Dieu va leur faire savourer les délices de sa présence, tout simplement. Dieu va leur faire savourer les délices de sa présence. Voilà ce que veut dire étendre sa tente sur eux. Ils seront en présence de Dieu. Et être en présence de Dieu, il n'y a rien au-dessus de cela. C'est le summum. C'est le summum. Être en présence de Dieu. Mais enfin, essayez de vous représenter maintenant, n'est-ce pas? Voyez-vous, si vous étiez en présence de Christ, Christ ressuscité, glorifié, pour toujours. Quand dans l'éternité, nous serons en présence de Dieu et de Christ. L'agneau n'est pas dissocié de Dieu, n'est-ce pas? Alors, être en présence de Dieu, disons Dieu tout simplement, Christ est Dieu. Eh bien, en présence de Dieu, là, le voir, il est écrit, nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire, nous ne le verrons pas d'une façon indirecte, nous ne le verrons pas même dans sa gloire, parce que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous en avons des aperçus maintenant de la gloire de Dieu. Hein? Il faudrait qu'ils soient plus nombreux d'ailleurs que ça dans l'Église, n'est-ce pas? Au lieu de voir du spectacle, au lieu de voir des acteurs, il faudrait mieux voir les manifestations de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ce serait bien mieux. Mais là, nous le verrons tel qu'il est, non pas à travers sa gloire, mais lui, sa personne, comme nous nous voyons, nous, en ce moment. Et cela, alors, engendre dans la personne, dans le cœur, dans l'esprit, dans toute la personne des rachetés, des hommes qui sont là, vêtus de robes blanches, cela engendre un bonheur, c'est ça le bonheur ineffable. Être en présence de Dieu, le voir, le contempler toujours. On ne veut pas dire, tout à l'heure ça va finir, mon audience est terminée, je vais être obligé de m'en aller. Non, toujours, toujours en sa présence. Voilà, chers amis, des choses qui sont de nature à nous fortifier, à nous encourager. Nous sommes destinés à ça, et c'est pour bientôt.